Radio Prague, les informations.
Le président de la République, Václav Klaus, a annoncé que vendredi prochain, il allait nommer David Rath au poste de ministre de la Santé. Protestation officielle de la diplomatie tchèque contre l'interdiction des célébrations de la fête nationale tchèque du 28 octobre à La Havane. 4 gardiens de prison tchèque devraient travailler dans la prison du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Vendredi prochain, le président de la République, Václav Klaus, nommera David Rath nouveau ministre de la Santé. En octobre dernier, le président a refusé cette nomination, estimant que David Rath ne pouvait pas exercer à la fois les fonctions du ministre et du chef de l'Ordre des médecins. David Rath, nommé entre-temps vice-ministre de la Santé par le chef du gouvernement, a annoncé ce mardi qu'il allait quitter la présidence de l'Ordre des médecins. David Rath succédera au poste de ministre de la Santé à la social-démocrate Milada Emerova à Limoges début octobre. L'interdiction par les autorités cubaines d'une réception à La Havane à l'occasion de la fête nationale tchèque du 28 octobre a suscité une protestation officielle de la diplomatie tchèque. Ce mercredi à Prague, les représentants du ministère des Affaires étrangères ont remis une note de protestation à la chargée d'affaires cubaine, Aimé Hernández Quesada. La réception organisée à l'occasion du 87e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie par l'ambassade tchèque à Cuba devait se dérouler le 28 octobre dernier dans un hôtel de luxe à La Havane. Les autorités cubaines ont qualifié cette manifestation de contre-révolutionnaire. 4 gardiens de prison tchèques devraient désormais travailler dans la prison du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Ce mercredi, le gouvernement tchèque a adopté l'accord nécessaire entre la République tchèque et l'ONU. L'envoi des gardiens tchèques à La Haye doit encore être entériné par le Parlement. Le chef du gouvernement régional de Saxe, Georg Milbrat, est persuadé que l'Allemagne ne modifie pas la période de transition, protégeant son marché du travail contre la main-d'œuvre des nouveaux pays membres de l'Union européenne et fixée à 7 ans. Il l'a dit ce mercredi à Prague, à l'issue de ses conversations avec des hommes politiques tchèques. Il a néanmoins admis la possibilité d'une libéralisation partielle du marché du travail allemand tchèque, dont pourraient profiter certaines professions. Georg Milbrat a discuté avec ses partenaires également de la coopération régionale entre la République tchèque et l'Allemagne. Il a soulevé par exemple le projet de construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer reliant Prague à Dresde. Côté météo, ce mercredi, le ciel a été couvert. Les températures se sont échelonnées entre 8 et 12 degrés. Jeudi, le temps restera nuageux et brumeux avec des précipitations de pluie locales. Les températures seront comprises entre 10 et 14 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Sigertova.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Le début de ce magazine d'actualité tchèque est réservé à Guillaume Narguet, qui vous parlera du projet de création de maisons de retraite pour les anciens combattants. Anna Kubichta s'est intéressée à la fin des restitutions des biens confisqués par le régime totalitaire. Les autorités tchèques comptent sanctionner sévèrement les grandes surfaces qui trompent leurs clients. Magdalena Sagertova nous amènera encore une fois au festival du film documentaire de Jihlava. Et Václav Richter nous présente une exposition de saints peu connus d'Alphonse Mucha. Et encore, pour terminer, un fait divers avec le plus grand braconnier en Tchéquie. Une émission réalisée par Jirka Fikirlova, à l'écoute de laquelle nous vous souhaitons de passer d'agréables moments. L'armée tchèque va construire dans les années à venir 10 nouvelles maisons de retraite pour les anciens combattants. D'ici à un an, un établissement de soins journaliers, le premier du genre dans le pays, verra également le jour. C'est ce qu'a promis mardi le ministre de la Défense, Karel Kühnel, lors d'une réunion de l'état-major. Plus de précisions avec Guillaume Narguet.
Environ 4500 soldats, dont l'âge moyen est de 80 ans, ayant combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale, vivent actuellement en République tchèque. C'est à ces anciens militaires du troisième âge, ainsi qu'à quelques 7000 autres ayant participé à des missions de paix plus ou moins récentes, que s'adresse la promesse du ministre de la Défense. Actuellement, l'armée souffre en effet de l'absence d'un centre de soins dans lequel les anciens combattants pourraient être placés sous surveillance médicale continue, mais aussi d'un nombre très insuffisant de centres d'accueil et de repos, seuls 2 établissements de ce genre fonctionnant à l'heure actuelle à Prague et à Karlovy Vary en Bohême de l'Ouest. En attendant la réalisation de ces maisons de retraite, de nombreux anciens militaires attendent, faute de mieux, qu'une place se libère dans les hospices civils. L'armée s'efforce cependant d'accélérer leur processus d'admission en versant aux établissements une contribution de 10 000 couronnes, environ 330 euros pour chaque vétéran. Le ministre de la Défense veut donc remédier à cette solution de fortune et faire évoluer cette situation provisoire. Les anciens combattants ont besoin d'une assistance médicale complète, a-t-il expliqué. Il est indispensable que l'armée dispose de ses propres équipements pour apporter de tels soins afin qu'elle ne soit pas dans l'obligation de transférer les anciens combattants dans les établissements d'autres institutions. Karel Kurnel a par ailleurs ajouté que le ministère veillerait à ce que les anciens combattants soient accueillis dans des centres les plus proches possibles de leur domicile.
La date limite de la loi sur les restitutions des biens immobiliers confisqués par le régime communiste tchécoslovaque ne sera pas prolongée comme le souhaitait l'opposition de droite. À partir de janvier 2006, les demandeurs en restitution devront se contenter d'une compensation financière à leur propriété perdue. Anna Kubishta.
2 mois, c'est le temps qui reste aux demandeurs en restitution pour faire valoir leurs droits. En effet, alors même que la proposition d'amendement à la loi sur les restitutions avait à l'origine le soutien du gouvernement, les députés sociaux-démocrates, parti majoritaire de la coalition gouvernementale, et les députés communistes ont vite balayé l'éventualité d'un débat à la Chambre. C'est le parti de droite, l'ODS, qui avait proposé de repousser la date limite, mettant un point final aux demandes de restitution des biens immobiliers confisqués par le régime communiste après 1948. Mais la réunion exceptionnelle de ce mardi, qui a rassemblé les députés pour discuter de la loi en question et de l'éventualité de la date de 2009 comme nouvelle limite, a été plus qu'éclair. Quelques minutes ont suffi et la majorité a tout bonnement refusé, ne serait-ce que d'en discuter le programme. Non seulement l'ensemble de la gauche tchèque, mais aussi certains membres du parti des unionistes se sont exprimés contre ce dernier. Toute l'affaire se complique en effet car nombre de demandeurs en restitution n'en sont en fait plus réellement propriétaires. Beaucoup ont en effet revendu à des entrepreneurs leurs droits à des biens immobiliers compensatoires, censés à l'origine se substituer en valeur aux biens qu'ils ne pouvaient récupérer parce qu'ils appartenaient désormais à d'autres propriétaires. Sur les quelques 90 000 personnes qui correspondent à une valeur d'environ 2 millions de couronnes, 75% d'entre eux sont des entrepreneurs et non des victimes de spoliation, a expliqué au quotidien économique Gospodarské noviny Michal Bureš, le porte-parole du fonds foncier, organe qui administre essentiellement les biens immobiliers dont l'État est propriétaire et ceux issus du Fonds du patrimoine national. C'est d'ailleurs justement une des raisons invoquées par ceux qui s'opposent à la prolongation de la loi sur les restitutions. Selon eux, les spéculations autour des terrains concernés auraient conduit à des excès. Cependant, pour les réels demandeurs, cela impliquera qu'à partir de 2006, ils devront se contenter d'une simple compensation financière, somme qui est bien souvent inférieure à la valeur du terrain autrefois confisqué, en tout cas d'après les critiques émises par les députés de l'ODS favorables à l'amendement. L'un d'entre eux, Miroslav Kučera, le précise à Hospodářské noviny en présentant le cas des agriculteurs qui ne pourront plus espérer de ces restitutions de terrain un plus pour leur exploitation. Les députés favorables à l'amendement espèrent encore pouvoir remettre la question sur le tapis grâce au député Jan Gruza du parti chrétien-démocrate qui veut le lier à la discussion autour de l'amendement d'une autre loi en décembre. Quant au tout dernier recours sur lequel tablent les propriétaires fonciers, c'est que la date limite prévue pour les restitutions soit annulée par la Cour constitutionnelle elle-même.
Après une série de contrôles effectués dans les grandes surfaces en Tchéquie, les autorités ont décidé d'être beaucoup plus sévères envers les commerçants qui vendent des denrées alimentaires après leur date d'expiration ou trompent d'une autre manière leurs clients. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Milan Urban, et son collègue de l'Agriculture, Peter Sgarba, sont tombés d'accord sur les mesures à prendre pour que la santé des consommateurs tchèques ne soit pas mise en danger. La principale mesure concerne les sanctions financières, qui peuvent frapper les grandes surfaces qui vendent de la viande avariée sous les formes les plus diverses ou changent la date d'expiration de certaines denrées alimentaires. Des délits qui ont été découverts chez des chaînes internationales comme Meinl, Hypernova, Albert, Carrefour, Delhaize, Billa ou Kaufland. Quels sont les changements décidés par les autorités? Précision par le ministre Milan Urban.
V současné době jsou maximální pokuty v těch různých zákonech od výše 1 až 3 miliony korun.
Actuellement, les sanctions financières découlant de différentes lois sont d'un montant maximum de 1 à 3 millions de couronnes. Naturellement, pour les géants de la distribution, cela ne représente pas une somme énorme, et de telles sanctions ne jouent même pas un rôle de prévention. Pour des délits que nous avons découverts, par exemple la vente de viande avariée ou le changement de la date d'expiration sur les fromages, je pense que nous pourrions infliger une sanction maximum. Cette sanction pourrait s'élever à 50 millions de couronnes, donc une somme qui devrait faire réfléchir les grandes surfaces et les empêcher de nuire à leurs clients. Encore à la veille des fêtes de la fin de l'année, les autorités planifient une intensification des contrôles. Pour cela, elles disposent de nombre de plaintes de la part des clients. Quelles sont les mesures supplémentaires entreprises par le ministre de l'Agriculture, Peter Sgarba?
Na ministerstvu zemědělství byla zřízena bezplatná linka. Do dnešního dne bylo více jak 1000 podnětů.
Au ministère de l'Agriculture, nous avons mis en place un numéro de téléphone vert où nous avons déjà reçu plus de 1000 plaintes concernant la violation des normes de vente, aussi bien dans le commerce au détail qu'en gros. Le plus souvent, il s'agissait de la manipulation des dates d'expiration des produits. Les contrôles effectués ces derniers temps ont démontré que la plus grande partie des plaintes étaient fondées. L'Association pour la protection des consommateurs accueille avec satisfaction le projet d'augmenter les sanctions envers les commerçants qui violent les normes. En effet, d'après l'association, même après les récents contrôles, la situation ne s'est guère améliorée. Vent d'Est, ici et ailleurs, où tout va bien, avec Jeanne Fonda et Yves Montand, voilà quelques-uns des films que le cinéaste français, installé aujourd'hui aux États-Unis, Jean-Pierre Gorin, a tourné à la fin des années 1960 avec Jean-Luc Godard. Jean-Pierre Gorin a évoqué récemment cette collaboration connue comme le cinéma du groupe Dziga Vertov au festival du film documentaire de Yerlava, dont il a été l'un des invités. Jean-Pierre Gorin, au micro de Magdalena Sagertova.
Le groupe, c'était à la fois une parodie de groupe, c'est-à-dire... et une utopie de groupe, c'est-à-dire que c'était un groupe de deux personnes qui rêvaient d'être un groupe. Ce qui a différencié le travail que Jean-Luc et moi nous avons fait, c'est que on s'intéressait d'abord et avant tout au cinéma. Donc c'était en partie parce qu'on savait très bien que il y avait d'autres gens sans doute plus qualifiés que nous pour faire ce que le cinéma militant traditionnel avait fait, c'est-à-dire de suivre les luttes ou d'en chanter lyriquement les louanges, et ça nous intéressait assez peu. Nous, ce qui était un peu notre obsession, c'était ce sens que il n'allait pas de soi de faire un cinéma qui se disait comme ça de gauche et sans questionner sa grammaire, ses stratégies, etc. Donc c'était une manière de questionner le cinéma, de questionner les images et les sons et la manière de les utiliser.
Vous êtes ensuite parti aux États-Unis, vous vivez toujours là-bas, et vous avez tourné vos propres films en solo. Ils parlent de l'Amérique ?
Oui, absolument. Ce sont des films authentiquement américains et authentiquement populaires. Ils sont à la fois modestes et arrogants. Ils ont l'arrogance de leur modestie, c'est-à-dire qu'ils veulent parler d'un sujet quand même assez énorme, qui est ce que c'est que d'être américain. Et ils ont cette espèce de statut un peu bizarre que des critiques américains comme Ken Jones ont bien reconnu, ou Manny Farber ont bien reconnu, qui est d'être à la fois complètement à l'intérieur de ce qu'ils décrivent et aussi à l'extérieur de ce qu'ils décrivent. Donc ce sont des films sur des gens ordinaires, qui font des choses ordinaires, mais qui sont des choses profondément américaines.
On croyait bien connaître le peintre Alphonse Mucha, l'un des artisans de l'art nouveau. L'exposition d'un ensemble de ses dessins, qu'on peut voir actuellement à la maison à l'Agneau d'Or, à Prague, démontre qu'il reste toujours quelque chose à découvrir dans son œuvre. Václav Richter.
En 1926 a lieu à Prague le rassemblement des Sokols, la grandiose fête gymnique qui réunit dans la capitale des milliers de gymnastes des deux sexes. Ils présentent leurs exercices devant un public attentif et enthousiaste. Pour rehausser l'éclat de cette manifestation, on décide de donner au centre de Prague, sur la Vltava, une fête nautique, un spectacle monumental qui retracerait l'histoire des Tchèques en tant que membres de la grande famille des peuples slaves. L'idée de la coexistence et de la coopération des peuples slaves était très chère à Alphonse Mucha, Mucha. Ce projet lui donnait une excellente occasion de marier la tradition des tableaux vivants, très populaires à l'époque, avec les grands thèmes de l'épopée slave, ainsi que de toiles gigantesques auxquelles il a consacré une grande partie de sa vie. Le peintre écrit donc avec Karel Hlava le scénario de la fête sur la Vltava et dessine aussi avec le sculpteur Ladislav Chalon les splendides décors du spectacle. La première est fixée au 3 juillet 1926. Devant la foule qui se presse sur les bords de la rivière, une construction élégante représente une espèce de temple des peuples slaves, et sur les bateaux richement ornés qui voguent sur la Vltava évoluent d'innombrables personnages représentant des moments cruciaux de l'histoire tchèque. Le public voit entre autres une cérémonie païenne, les noces du roi Přemysl Otakar II, les guerres hussites, l'arrivée du roi Georges de Poděbrady et finalement une espèce d'apothéose du panslavisme, un appel à la création d'une fédération des peuples slaves. La réalisation de ce projet monumental n'a pas été sans faille, et en plus les exécutants ont été obligés de lutter contre la rivière en crue en ce moment-là, car l'eau détruisait les décors et emportait les bateaux allégoriques. On n'a réalisé finalement qu'un seul spectacle des 4 représentations prévues, car le danger pour les exécutants était trop grand et la suite des productions a été interdite par la police. Malgré cet échec relatif, il nous reste un ensemble de dessins d'Alphonse Mucha qui constitue non seulement une collection d'un grand intérêt artistique, mais aussi un témoignage haut en couleur sur la vie et les divertissements de la société pragoise du début du XXe siècle. Sur les dessins de Mucha, la fête ratée a conservé toute sa splendeur.
Les policiers qui avaient arrêté un homme de 40 ans s'étant transformé en forcené après une violente altercation avec son épouse n'en croyaient vraiment pas leurs yeux. Au domicile de l'homme, arrêté pour avoir tiré des coups de feu en pleine agglomération contre la maison où il croyait que sa femme se cachait et avoir grièvement blessé ainsi un automobiliste qui passait par là, ont découvert une véritable salle d'exposition de trophées de chasse. D'après Tomáš Blata, directeur de l'entreprise des bois et forêts tchèques à Židlokovice, non loin du chef-lieu de la Moravie-Brno, une telle collection n'existe qu'au château de Konopiště, un haut lieu de la chasse de la noblesse dans les temps anciens. En plus de cela, ce plus gros braconnier de l'histoire de la République tchèque était aussi un grand collectionneur d'armes, et pas n'importe lesquelles. Elles étaient en majeure partie de sa propre fabrication. En effet, l'homme avait été armurier à la fabrique d'armement Zbrojovka Brno pendant de longues années. Depuis ce temps-là, il avait sorti en cachette des pièces servant à la production des fusils et armes de poing. Descendu au rang de simple ouvrier, il avait continué dans la fabrication illégale d'une importante collection d'armes retrouvées chez lui. Il avait été membre pendant des années aussi de l'Union des chasseurs, exclu ensuite pour braconnage. D'après les experts qui ont examiné la collection de trophées, le braconnier aurait assouvi sa passion pendant plus de 20 ans sur tout le territoire de la Moravie, ne faisant aucune différence entre les saisons, chasse ouverte ou fermée, tuant tout ce qu'il pouvait, même dans les chasses gardées et les réserves. L'homme risque maintenant 8 ans de prison pour détention illégale d'armes, coups de feu et braconnage. Sa collection pourrait être répartie entre les propriétaires des différentes chasses de la région, car certains trophées sont uniques, mais comment déterminer de quelle chasse les bois énormes de tel ou tel cerf ou chevreuil proviennent-ils ? Alain Skivinski et l'équipe de Radio Prague en langue française vous ont présenté Faits événements. Voici la suite de notre programme.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Les histoires de l'injustice, la Tchécoslovaquie communiste. Tel est l'intitulé d'un projet lancé par l'ONG L'Homme en détresse dans des écoles tchèques. À l'aide de projections de films documentaires sur les crimes du communisme, suivis de débats avec d'anciens prisonniers politiques, victimes de procès arbitraires et d'atrocités, le projet doit permettre aux jeunes prendre connaissance des événements de notre histoire récente. Parlant du sens du projet, Jan Stransky, lui-même ancien prisonnier politique, politique et co-auteur de l'un des films projetés intitulé « La perte de la mémoire », a souligné que les personnes qui ont vécu les histoires de l'injustice sont la mémoire vivante de la nation, la dernière génération qui a son mot à dire sur ce qui c'était le communisme.
Ti lidé, které uslyšíte, jsou z těch 270 tisíc lidí, kteří byli odsouzeni na miliony let.
Ceux qui fournissent aujourd'hui leurs témoignages font partie de ces 270 000 personnes qui ont été condamnées à des millions d'années de prison et avec eux des centaines de milliers de membres de leur famille. Ils essayent d'être non pas des témoins éplorés de l'une des périodes parmi les plus sombres, mais d'en tirer pour le présent quelque chose de positif, en dépit du fait qu'ils n'aient pas été mis en prison ni par les nazis ni par les soviétiques, mais par leurs propres concitoyens appartenant à la même nation. Pour Dagmar Skálová, l'une des prisonnières des années 50 qui a échappé à la peine capitale, la prison n'était pas une humiliation, car elle était condamnée pour une juste cause.
Vždyť spousta jich byla zavřena, ani nevěděli dobře proč.
Beaucoup étaient emprisonnés sans savoir pour quelle raison, mais moi, je le savais exactement. Je me suis dit qu'il était de mon devoir de lutter contre le régime, car j'ai travaillé comme éducatrice dans un centre pour jeunes filles. Et il était de mon devoir d'assurer à nos enfants un meilleur avenir et donc de lutter contre les injustices de toute cette machine communiste. Les affaires personnelles ont été mises de côté. Les enquêteurs m'ont demandé pourquoi je suis allée contre le régime, car d'après eux, rien ne m'a manqué. Non, rien ne m'a manqué, sauf la liberté. Hilda Čiháková est une autre prisonnière politique des années 50. On écoute son témoignage.
Mlátili mě hrozně, skopali mě z vás. Když jsme byli v Ruzini a byli, šli jsme k výslechu, tak jsme hned...
Nous étions très maltraités, torturés, battus. On me donnait des coups de pied dans la prison de Ruzini lorsque nous sommes allés aux interrogatoires. Il a fallu avoir un bandeau sur les yeux pour que nous ne voyions pas nos enquêteurs. Lorsque nous sommes arrivés dans la salle des interrogatoires, nous étions attachés par une chaîne à une planche. Les femmes n'échappaient pas aux cruautés dans les prisons communistes. Albina Palkoskova, qui a passé 12 ans en détention, en sait aussi quelque chose. Lorsqu'ils m'ont dit d'ôter mes boucles d'oreilles, j'ai pensé que c'était pour me les prendre, mais c'était pour me donner des gifles. J'étais attachée à une chaise pour ne pas tomber, tellement c'était dur. Ma tête tournait de gauche à droite et de droite à gauche. Leur pratique préférée était de frapper les femmes sur le dessous des pieds, ce qui fait très mal. Après, il était impossible de marcher pendant plusieurs jours. Entre les années 1948 et 1989, 241 prisonniers politiques ont été exécutés. Plus de 8000 prisonniers sont morts dans des mines d'uranium, des forges et des carrières. Près de 600 détenus n'ont pas survécu aux interrogatoires. Environ 500 hommes ont été tués à la frontière. Plus de 250 000 personnes ont été condamnées et emprisonnées injustement. 70 000 personnes ont été envoyées dans des camps de travaux forcés. Près de 60 000 hommes ont travaillé dans des PTP, camps militaires de travaux forcés. Plus de 400 000 citoyens fuyés ou ont été chassés du pays. Tomáš Sedláček est l'un de ceux qui ont été condamnés à perpétuité, mais la mort de Staline et de Gottwald a atténué sa peine.
Ja
J'étais convaincue qu'après la détention préventive, cela changerait, que j'aurais l'occasion de m'expliquer devant le tribunal, de ramener les choses à leur juste mesure, mais c'était une erreur, une pure naïveté. Car tout était décidé d'avance, les jugements étaient rendus avant l'ouverture des procès qui se sont déroulés pour faire comme s'il y avait une justice des tribunaux. Car rendre en 4 heures deux verdicts de condamnation à perpétuité et d'autres longues peines de prison serait normalement impossible. La monstruosité de la période des années 50 se reflète aussi dans le sort du juge Pavel Vitek, qui, en ces années-là, a co-signé 7 verdicts de mort. Il dit avoir été contraint à cela. Aucun juge n'est intervenu, n'a dit « moi, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas juger dans de telles conditions ». L'atmosphère de peur était omniprésente, c'était une période terrible, épouvantable. Le régime liquidait non seulement ses opposants et les membres d'autres partis politiques, dont Milada Horáková, députée du Parti National Social, mais aussi les communistes de ses propres rangs, Bedřich Rajcin et Rudolf Slansky. La justice de ces années-là était une justice de cabinet, une commission de 5 membres désignée par le ministre de la Justice, surnommée K5, décidait de la culpabilité et des peines. C'est elle qui dictait les verdicts, pas nous, les juges et les tribunaux. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt sur les ondes de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear